Elle nous a fait grand-peur. Elle hurlait et ne reconnaissait même plus son propre enfant. » Madame de Bouville exigea que la jeune femme ne reçût aucune visite, même des sœurs et novices du couvent, et qu'on la tînt cloîtrée dans le plus grand calme, le plus grand silence. « Si quelqu'un se présente pour elle, qu'on ne l'autorise pas à pénétrer et qu'on envoie m'avertir. » Ce même jour, deux draps d'or fleur-de-lysée, 8 aunes de sandales noires et 2 draps de Turquie brodés aux armes de France furent apportés à Vincennes pour servir à l'enterrement du premier roi de France qui ait reçu le nom de Jean. Et ce fut bien un enfant nommé Jean qui s'en alla effectivement dans un coffre si petit qu'on ne crut point utile de le placer sur un char, mais qu'on le posa simplement sur le bas d'une mule. Maître Geoffroy de Fleury, argentier du palais, nota sur ses registres les frais de ses obsèques pour 111 livres 17 sols et 8 deniers le samedi 20 novembre 1316. Il n'y eut point le long cortège rituel, ni de cérémonial à Notre-Dame. On gagna immédiatement Saint-Denis où l'inhumation fut faite aussitôt après la messe. Au pied du gisant de Louis X, encore tout blanc, tout frais, dans sa pierre nouvellement taillée, on avait ouvert une étroite fosse. Là fut descendu entre les ossements des souverains de France l'enfant de Marie de Cressay, demoiselle d'Île-de-France et de Guccio Baglioni, marchand siennois. Adam Héron, premier chambellan et maître de l'hôtel, s'avança au bord de la petite tombe et dit, regardant son maître Philippe de Poitiers, « Le roi est mort. Vive le roi !» Le règne de Philippe V le Long était commencé. Jeanne de Bourgogne devenait reine de France, et Mao d'Artois triomphait. 3 personnes seulement dans le royaume savaient que le vrai roi vivait. L'une avait juré le secret sur les saintes écritures, et les 2 autres tremblaient que ce secret ne fût pas tenu.
La France en main fermée.
Pour conquérir le trône, Philippe V avait usé à l'intérieur des institutions monarchiques d'un procédé éternel et qu'en langage moderne on nomme le coup d'État. Se trouvant par l'autorité de sa personne et l'appui de partisans dévoués investis des principales fonctions royales, il avait fait entériner par l'Assemblée de Juillet un règlement de succession qui pouvait éventuellement le favoriser, mais seulement après de longs délais et l'application de clauses préalables. Survenait en la disparition du petit roi l'événement propice. Philippe, aussitôt malmenant un peu la légalité qu'il avait lui-même établie, s'appropriait la couronne sans plus observer ni délai ni préalable. Un pouvoir obtenu dans de semblables conditions était forcément menacé, au moins en son début. Tout occupé à consolider sa position, Philippe n'eut guère le temps de savourer sa victoire ni de se contempler lui-même en son rêve accompli. La cime était étroite où il venait d'accéder. Les langues marchaient fort à travers le royaume. Le soupçon se répandait. La poigne du nouveau roi était assez connue et tous ceux qui risquaient d'en pâtir se serrèrent autour du duc de Bourgogne. Celui-ci courut sur Paris pour contester la désignation de son futur beau-père. Il exigeait la convocation du Conseil des Pairs et la reconnaissance de la petite Jeanne de Navarre comme reine de France. Philippe, pour s'assurer la régence, avait sacrifié le comté de Bourgogne. Pour garder la royauté, il offrit de séparer les 2 couronnes de France et de Navarre, si récemment réunies, et de laisser le petit royaume pyrénéen à la fille douteuse de son frère. Mais si Jeanne était jugée digne de régner sur la Navarre, n'était-elle pas digne de régner également sur la France? Le duc Eudes en décida ainsi et refusa la proposition. On irait donc à l'épreuve de force. Eudes repartit au galop pour Dijon, d'où il lança au nom de sa nièce une proclamation à tous les seigneurs d'Artois et de Picardie, de Brie et de Champagne, les invitant à refuser obéissance à un usurpateur. Il s'adressa, dans le même sens, au roi Édouard II d'Angleterre, qui, malgré les efforts de sa femme Isabelle, s'empressa d'envenimer la querelle en prenant le parti des Bourguignons. Dans toute division qui surgissait au royaume de France, le roi anglais voyait la perspective d'émanciper la Guyenne. « Est-ce donc à cela que je suis parvenu en dénonçant l'adultère de mes belles-sœurs ?» pensait la reine Isabelle. À se voir ainsi menacé au nord, à l'est, au sud-ouest, un autre que Philippe le Long eût peut-être lâché prise. Mais le nouveau roi savait qu'il disposait de plusieurs mois. L'hiver n'était pas temps de guerre. Ses ennemis devaient attendre le printemps pour pouvoir mettre des armées sur pied. Le plus urgent pour Philippe était d'aller se faire couronner et d'être revêtu de l'indélébile dignité du sacre. Il voulut d'abord fixer la cérémonie à l'Épiphanie. la fête des rois lui semblait de bon augure. On lui représenta que les bourgeois de Reims n'auraient pas le temps de tout préparer. Il accorda un délai de 3 jours. La cour partirait de Paris le 1er janvier et le sacre se ferait le dimanche 9.